السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں اللہ تعالیٰ کی صفت
précédent sermon dans le contexte de la tribu Al-Hasib, j'ai décrit les qualités des croyants qui, en raison de leur foi, après toute persécution et toute souffrance qu'ils subissent aux mains de leurs ennemis, ils déclarent que Allah seul leur suffit. Aucune souffrance, aucune oppression subie de la main des gens de ce bas monde ne fait faiblir leur foi. Et ensuite, j'ai déclaré, Allah suffit pour demander des comptes à ceux qui s'opposent aux prophètes et à leurs suivants. Allah suffit à ces personnes qui leur veulent du mal. Allah est prompt à demander des comptes. C'est-à-dire qu'il décrète comment il va traiter les opposants des prophètes, ceux qui sont orgueilleux, et il les attrape ici-bas ou dans l'au-delà. Et il leur demande des comptes pour les souffrances qu'ils ont infligées aux autres. Généralement, lorsque Dieu ne châtie pas les gens pour les méfaits qu'ils sont en train de commettre, ces gens pensent qu'ils sont en train de bien agir. Et cela les pousse à commettre davantage d'exactions. Apparemment, ils prennent le nom de Dieu, mais Allah connaît tout. Et il sait ce qu'il y a dans leur cœur. Lorsque Dieu décide de les attraper, leur fin est des plus ignobles. Cela a été expliqué dans un hadith où l'on trouve mention d'un avertissement sévère. Hadrat Aïcha radhiyallahu anha rapporte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que celui à qui on demandera des comptes au jour de la résurrection sera châtié. Hadrat Aïcha a déclaré que Dieu n'a-t-il pas déclaré Fasofa yuhasibu Hisaban Yassira, lui en vérité aura un compte facile. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré que je ne suis pas en train de parler de ce conte-là. Celui qui sera châtié au jour de la résurrection sera celui à qui on va demander des comptes en détail. C'est là donc un avertissement sévère. Qu'Allah ait pitié de nous tous. La distinction d'un croyant est qu'il marche sur la voie de la taqwa. Celui qui marche sur les voies de la taqwa sera récompensé. Ceux qui marchent sur la voie de la taqwa sont ceux qui craignent Dieu au fond de leur cœur. Ce sont ces personnes qui examinent en détail chacune de leurs actions. Ce sont des personnes qui s'acquittent de leurs devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Puisqu'ils sont en train de faire cet effort, Allah manifeste son attribut Al-Hasib en leur faveur. À ce propos, Dieu déclare dans sa verset du Saint-Coran que وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا et pourvoira à ses besoins d'où il ne s'y attend pas. Et celui qui met sa confiance en Allah, Allah lui suffit. En vérité, Allah accomplira sûrement son but. À toute chose, Allah a prescrit une mesure. Avant cela, dans le verset précédent, Allah a déclaré وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Et celui qui craint Allah, il ménagera une issue pour lui. Allah accordera aux muttaqis ses provisions. Il va les accorder ses provisions de là où ils ne s'y attendent pas. Pour l'acquisition de ces provisions, un muttaqi place sa confiance uniquement en Dieu. Et lorsque la confiance en Dieu est totale, c'est là que Dieu manifeste son attribut Al-Hasib et c'est là que Dieu montre qu'il lui suffit. On doit aussi se souvenir de ce fait que provision ici ne signifie pas uniquement des provisions matérielles. Le terme provision a plus d'un sens. Selon les dictionnaires arabes, rizq signifie les provisions matérielles, c'est-à-dire la nourriture. Cela signifie aussi l'argent. Rizq signifie aussi les provisions spirituelles. Cela signifie aussi progresser dans la spiritualité. Rizq signifie aussi le trésor de la connaissance. Le terme rizq s'applique à toutes les aptitudes de l'homme. Un muttaqi, une personne qui craint Dieu, n'a pas besoin uniquement des provisions matérielles. Une personne qui place sa confiance en Dieu n'a pas uniquement besoin des provisions matérielles. Cette personne désira acquérir tout type de provisions de la part de Dieu. Le Messie promis al-Islam nous a expliqué le terme rizq. Et dans ses explications, lorsqu'il a présenté une analogie, il n'a pu se passer de citer l'exemple sublime du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il donne des explications à ce propos, il cite l'exemple du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Lorsqu'il mentionne cette provision spirituelle, il ne peut que citer l'exemple du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il déclare donc que parmi les bénédictions de la taqwa, il y a que Dieu protège le muttaqi des difficultés qui entravent son parcours spirituel. C'est-à-dire, Dieu le libère de ses entraves, de ses obstacles, et Dieu lui accorde sa provision. Le Messie premier, l'Islam, déclare que je veux faire mention des provisions que sont les connaissances. Le saint prophète Mohammed, soit ça lui, était illettré, mais il devait se mesurer à toute l'humanité. À toute l'humanité parmi lesquelles il y avait les gens du livre, les philosophes, les grands érudits. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a reçu cette provision spirituelle en si grand nombre qu'il a eu le dessus sur tous et il leur a montré leurs erreurs. Ce fut là une provision spirituelle sans pareil. Le saint Coran fut une provision spirituelle accordée au saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Coran a lancé un défi en disant que vous ne pourrez fabriquer une seule sourate similaire aux sourates du Saint-Coran, même une toute petite sourate. Le Saint-Coran est un trésor spirituel accordé au Saint-Prophète Mohammed, grâce à ce livre. Au cours de sa vie, le saint prophète, paix soit sur lui, a cloué le bec aux gens de ce bas monde, et ce livre sera vivant jusqu'à la fin des temps. C'est un livre dont les connaissances vont s'offrir à chaque période à ceux qui vont méditer sur ses paroles. Ces connaissances vont s'offrir à toute personne qui aura l'aptitude à méditer sur ses propos. Certains des faits mentionnés dans le Saint-Coran dépassaient l'entendement des compagnons du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison que Dieu a déclaré que il se peut que vous ne compreniez pas ces trésors qui ont été accordé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a par exemple la mention de l'atome. Les saints croyants et même les grands compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ne comprenaient rien à propos de l'atome. Mais Dieu a mentionné la force dévastatrice de l'atome. Le Saint-Coran a donné le nom de Hutama à l'atome et il est dit Wama adraka mal Hutama. Qu'est-ce qui te fera savoir c'est quoi Hutama? Ici, Dieu s'adresse aux compagnons et il est dit que c'est quelque chose qui atteint les cœurs, qui affecte les cœurs en premier et qui affecte aussi les autres parties du corps. À Nagasaki, au Japon, il y a un musée consacré aux effets de la bombe atomique. Et comme on le sait, une des bombes est tombée sur Nagasaki. Et dans ce musée, on montre où on a montré l'effet de la bombe sur les victimes. La personne qui était assise lorsqu'elle est tombée est restée assise, le cœur arrêté. Après cet arrêt du cœur, la peau a fondu et est tombée en lambeaux. Certains ont été frappés alors qu'ils étaient assis, d'autres alors qu'ils étaient debout, d'autres alors qu'ils étaient allongés. C'est là donc un exemple qui a été cité dans le Saint-Coran et on trouve mention des autres découvertes scientifiques dans le Saint-Coran et cela prouve encore une fois la supériorité de ce livre. Tout cela prouve le statut supérieur du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et sa connaissance et son érudition. Les compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ont profité spirituellement de la présence du saint prophète et ont acquis ce trésor selon leurs aptitudes. Ses compagnons étaient toujours en quête de cette provision spirituelle. Ils avaient confié à Dieu le soin de leurs besoins matériels. Et ils attendaient avec impatience les paroles de connaissance qui allaient sortir de la bouche du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils voulaient entendre ces paroles de connaissance afin de s'enrichir de ce trésor. Il y a par exemple Hadrat Abu Huraira radhiyallahu anhu qui était toujours en compagnie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et qui n'avait pas d'autres soucis. La faim et la soif le mettaient dans un état des plus déplorables. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de profiter de ce trésor de connaissances que nous a transmis Hadrat Abu Huraira. Et on est en train de distribuer cette provision aujourd'hui, et cela va se faire jusqu'à la fin des temps. Voilà donc cette provision qui a été distribuée aux autres. La majorité des autres compagnons étaient occupés dans leur commerce. Mais leur plus grand désir était de progresser dans la taqwa et dans la spiritualité et de répondre à tout appel lancé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il voulait aussi profiter de cette provision spirituelle accordée au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il y avait d'autres qui avaient des occupations sommaires, mais Dieu les bénissait amplement. Et leur profit dépassait toute attente. Un compagnon a déclaré qu'il avait demandé au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, de prier pour lui. Et il a déclaré que son commerce a été béni à tel point que lorsqu'il touchait la terre, cette terre se transformait en or. Puisqu'ils ont marché sur les voies de la taqwa, puisqu'ils ont accordé prééminence à la foi sur les choses mondaines, Dieu les a bénis amplement et le monde est devenu leur esclave. Il y avait ses compagnons qui avaient certes des commerces, mais ils n'étaient pas avides de ce bas monde. Ils ont laissé des fortunes en or lorsqu'ils sont décédés. Voilà ceux qui ont eu des récompenses matérielles sans limite, tout comme ils ont reçu des récompenses spirituelles. Le Messie premier, alayhi-salam, déclare, quant à celui qui est muttaki aux yeux de Dieu, Dieu le fait sortir de toute difficulté et lui accorde ses provisions de là où il ne s'y attend pas. Il ne sait pas comment ou par où il a reçu cette provision. La promesse de Dieu est vraie et nous avons la foi que Dieu est celui qui tient tout le temps ses promesses. Il est miséricordieux. Quant à celui qui se consacre à Dieu entièrement, Dieu le protège de toute humiliation. Dieu devient lui-même son protecteur. Mais il y a ceux qui disent être muttaki, mais qui se plaignent en disant que nous n'avons pas reçu des bénédictions. Lequel d'entre les deux allons-nous qualifier de véridique et de menteur ? On ne peut accuser Dieu, car Dieu tient tout le temps ses promesses. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah ne brise jamais ses promesses. Nous devons donc qualifier de menteur celui qui fait sa déclaration. En fait, cette personne n'a pas purifié son âme pour mériter la grâce divine. Cette personne n'est pas muttaqi aux yeux d'Allah. Il accomplit ses actions par ostentation et au lieu d'être récipiendaire de ses grâces, il est frappé de malheur et de calamité. Allah ne laisse pas partir à la perdition le muttaqi. Allah est celui qui tient ses promesses et il accomplit certainement ses promesses. Ensuite, le Messie promis, l'Islam, déclare que le prophète David a déclaré dans les psaumes que tout au long de sa vie, depuis sa jeunesse à sa vieillesse, il n'a jamais vu un muttaqi qui mendiait. Il n'a jamais vu les enfants des muttaqi mendier des miettes. C'est là une vérité, à savoir que Dieu ne laisse pas partir à la perdition ses serviteurs et leurs enfants ne tendent jamais les mains. Il y a eu de nombreux saints et de prophètes qui sont passés avant nous. Ont-ils mendié ou leurs enfants ont-ils mendié quelque chose? Sont-ils tombés dans l'humiliation et dans la mendicité? Certainement non. Si une personne est muttaqi, Dieu lui protégera, lui et ses sept générations suivantes. Adopter la taqwa, se consacrer en Dieu, sont des choses fondamentales. Et chacun doit essayer de progresser dans la taqwa. Toute personne qui se dit croyante doit s'efforcer en ce sens. Et avec la taqwa, il y a aussi la confiance que l'on doit avoir en Dieu. Tout comme l'a déclaré le Messie promis, en craignant Dieu et en plaçant sa confiance en Dieu, le croyant assure ses provisions et assure aussi la provision de ses descendants. Mais qu'il soit clair aussi que si les enfants de ces muttaqi se sont rebellés et ont commis des méfaits, une autre loi de Dieu va entrer en action. Et Dieu va enlever ses bénédictions. Ses enfants profitent de ses prières et essayent de marcher sur les voies de la taqwa. Voilà donc comment doivent agir les enfants des muttaqi. Et c'est ainsi que l'on va transmettre cette vertu de génération en génération. Et c'est ainsi qu'on va transmettre aussi les bénédictions de Dieu et sa protection de génération en génération. Ces paroles du Messie premier, l'Islam, ne sont pas contre la loi de la nature. Certains peuvent se demander pourquoi le fils de Noé s'est-il noyé. Le fils de Noé n'a pas essayé de profiter de la taqwa. Il s'est rebellé et c'est ainsi qu'il a eu une fin ignoble. Si les enfants d'un muttaqi évitent toute forme de polythéisme, et qu'ils arrivent à commettre des écarts de conduite, soit par manque de connaissances, et qu'ils subissent en conséquence des pertes dans leur commerce, Allah ne fera pas dégénérer leur situation à tel point qu'ils tombent dans la famine. Au contraire, Allah leur accordera son soutien. Et si ces personnes marchent sur les voies de la taqwa, ces personnes verront les signes de la grâce de Dieu. D'aucuns disent que nous prions, nous accomplissons d'autres actes de vertu, mais notre situation est en train de s'empirer de jour en jour. Le point que l'on doit comprendre ici et qui a été évoqué plus haut par le Messie premier, l'Islam, et que l'on doit être muttaqi aux yeux d'Allah et on doit faire des efforts en ce sens. Ces personnes doivent implorer le pardon de Dieu. Ces personnes ont des soucis à se faire et doivent réciter l'istighfar. La promesse de Dieu ne peut être fausse. S'il y a des lacunes quelque part, c'est en nous qu'elles se trouvent. C'est dans nos efforts qu'il y a des manquements. La taqwa signifie accomplir tout acte de vertu, même la plus subtile. Si on passe par de telles situations, c'est-à-dire que notre situation est en train de s'empirer en dépit de nos efforts, nous devons faire un examen de conscience. Le Messie premier salam a déclaré à propos de ceux qui font le commerce que s'ils mentent même pour des faits qui sont apparemment insignifiants, ce mensonge va les écarter de la taqwa. Et ce sera un manque de confiance en Dieu. Afin de profiter des faveurs de Dieu, nous devons examiner toute action que nous faisons, que nous accomplissons. Nous devons nous demander s'il n'y a pas un mélange de mensonges dans les paroles et s'il n'y a pas eu de mauvaises intentions. Est-ce qu'on a toujours agi avec droiture? Est-ce qu'on a toujours été irréprochable? Qawl-e Sadid ne signifie pas uniquement dire la vérité. Qawl-e Sadid signifie prononcer des paroles qui sont claires, sans ambiguïté, des paroles que les autres peuvent comprendre sans aucune ambiguïté. Pour être un muttaqi, on doit aussi s'acquitter de ses devoirs envers Dieu, c'est-à-dire qu'on doit rendre culte à Dieu. Le vrai muttaqi est celui qui s'acquitte de ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Et pour cela, nous devons faire un examen de conscience profond. À notre époque, nombre de personnes ont bâti des fortunes en trompant les autres. Apparemment, ces personnes sont très riches. Mais aux yeux de Dieu, cette richesse est un enfer. Et ils sont consumés par ce feu ici-bas, sur terre. Et ce feu prend la forme de maladie, prend la forme de procès ou d'autres formes de malheur. Cette richesse se transforme aussi en anxiété. Et il y a aussi le feu de l'au-delà. Allah nous avertit par ce feu de l'au-delà. Leur richesse n'est pas quelque chose qui est enviable par le croyant. Au contraire, cela doit effrayer davantage les croyants. Dieu déclare qu'il accorde des bénédictions, des provisions aux croyants.
Le
la chose essentielle pour un croyant, c'est la provision spirituelle, une provision qui a éminence sur toute autre chose. C'est grâce à cette provision que le croyant aura la tranquillité du cœur ici-bas et dans l'au-delà. Il aura aussi cette tranquillité du cœur dans le demeure éternel. C'est-à-dire qu'il aura le plaisir de Dieu. Il y a une distinction claire entre le niveau d'un croyant et le niveau d'une personne de ce bas monde. Quant à celui qui veut avoir le plaisir de Dieu, il ne court pas derrière les richesses de ce bas monde. Il essaye d'abord d'avoir le plaisir de Dieu par l'entremise de ses biens et de ses provisions. Dans le Saint-Coran, Dieu déclare qu'il récompensera sans compter les croyants. Et il déclare aussi que les autres, c'est-à-dire les gens de ce bas monde, vont se perdre complètement dans le plaisir. Il est dit « Zuyina lil-ladhina kafarul hayat dunya wa yaskharuna min al-ladhina amanu wal-ladhina taqaw fawqahum yawm al-qiyama wallahu yarzuqu man yasha'u bi khayri hisab. » La vie de ce monde est rendue attrayante aux mécréants et ils raillent les croyants. Mais ceux qui craignent Allah seront au-dessus d'eux au jour de la résurrection, et Allah accorde ses dons avec largesse à qui il veut. Ce verset déclare que les incroyants considèrent que la seule chose la plus importante en ce bas monde sont les richesses matérielles. Et d'une façon générale, Dieu a brossé le tableau de ces personnes avides de ces richesses matérielles. À savoir, ces personnes méprisent les croyants en raison de leurs richesses. Ces personnes se disent riches au nom de Dieu et ils commettent des exactions contre les faibles croyants. Mais un jour a été fixé pour la rétribution et ce jour-là, ils verront qui ont eu du succès. Qui ont eu du succès? Qui est celui qui a eu du succès? Est-ce celui qui était orgueilleux en raison de sa puissance ou est-ce celui qui était humble? Est-ce celui qui a subi sans broncher toute exaction commise à son encontre pour la cause de Dieu? Allah a déclaré ici que ceux qui ont adopté la taqwa, il ne suffit pas de croire. La chose la plus essentielle est l'acquisition de la taqwa, de cette crainte et de cet amour de Dieu. On doit acquérir la taqwa, car sans taqwa, on ne pourra pas se rapprocher de Dieu. Une simple foi ne va pas nous rapprocher de Dieu. Lorsque nous regardons le monde musulman aujourd'hui, nous constatons qu'en dépit de la promesse faite par Dieu, qu'il va accorder la suprématie aux musulmans sur les autres au cours des guerres, nous voyons par contre que les musulmans sont dans un état des plus lamentables. Cela démontre clairement qu'il y a manque de taqwa, parce qu'Allah déclare qu'il ouvre les voies pour les croyants de là où ils ne s'y attendent pas. Il déclare aussi que moi j'accorde sans compter. Nous voyons cela parmi les premiers musulmans. Dieu a récompensé ces premiers musulmans amplement en raison de leur sacrifice. Et tant qu'il y a eu une trace de taqwa en ces musulmans, le règne des États musulmans avait une certaine influence. Certes, aujourd'hui, certains pays musulmans sont riches de pétrole de l'or. Mais en dépit de cette richesse, les puissances occidentales les ont asservies économiquement. Et c'est pour cette raison que ces richesses ne servent à rien. Ils n'arrivent pas à user de cette richesse pour aider les pays musulmans qui sont économiquement faibles. Soit que ces pays riches n'ont pas l'intention de le faire, soit qu'ils ont peur de quelque chose. En tout cas, les musulmans ne sont pas en train de s'entraider comme ils devaient le faire. Et s'ils ont l'intention d'aider les pays musulmans pauvres, ils doivent tout d'abord prendre l'aval des puissances occidentales. Il fut un temps où, en dépit de leur manque de moyens matériels, en dépit de leur manque d'effectifs et en dépit de leur manque d'argent, ils ont remporté la victoire sur de grands empires comme l'Empire perse. Ils se sont mesurés à d'autres grands empires et ils les ont conquis. Ils ne l'ont pas fait afin d'asseoir leur pouvoir, mais afin de mettre fin à toute forme de persécution. Leur foi emplie de taqwa les a aidés afin qu'ils puissent mettre fin à toute forme de persécution. Et Allah les a récompensés sans compter. Mais aujourd'hui, les pays pauvres musulmans regardent vers l'Occident. Il y a quelques pays musulmans qui sont apparemment riches, mais ils ont oublié leur Seigneur véritable et se sont tournés vers des faux dieux. Cela démontre qu'ils sont vides de taqwa. Naguère, ces personnes étaient les guides de l'humanité. Maintenant, ces personnes ont été réduites à l'esclavage. Les musulmans sont en train de porter les chaînes de l'esclavage. Et cela va à l'encontre du décret final de Dieu. Allah déclare « Inna Allah balighun amri ». Allah va certainement atteindre son but. C'est un décret de Dieu. C'est une décision de Dieu qui a été évoquée dans le Saint-Coran. C'est-à-dire qu'Allah et son prophète auront le dessus. Le destin du monde est lié avec l'islam. Comment est-ce que cela va se faire? Cela va se faire lorsque nous allons suivre l'exemple des compagnons du saint prophète Mohammed lui. Ces personnes qui ont asservi le monde et qui ont accordé prééminence à la foi aux choses mondaines. Ce sont des personnes qui ont marché sur les voies subtiles de la taqwa. Des personnes qui, pour la cause de l'islam, ont sacrifié leur temps, leur bien et leur honneur. Suite au commandement de Dieu, lorsque l'oppression des ennemis a commencé à peser, ils ont émigré et Allah leur a ouvert les portes de la victoire.
Musulmanon ki halat-e-zahar
Le Saint-Coran a évoqué l'état de faiblesse des musulmans en disant que قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ Ô mes serviteurs qui croyez, craignez votre Seigneur. Pour ceux qui font le bien, dans cette vie il y a le bien, et la terre d'Allah est vaste. En vérité, les endurants auront leur récompense sans mesure. Au début de l'histoire de l'islam, les musulmans à la Mecque se trouvaient dans un état des plus déplorables. Les incroyants ont commis des exactions, même à l'encontre de la personne du saint prophète Mohammed, et ils ont persécuté atrocement les faibles musulmans. Certains hommes et femmes musulmans ont même été tués. Allah déclare que la première chose, la condition fondamentale est la taqwa. La foi doit être accompagnée de la taqwa, c'est-à-dire de la crainte de Dieu. Et quant à celui qui marche sur les voies de la taqwa, nous les accorderons des récompenses ici-bas et dans l'au-delà. Afin d'éviter ces persécutions, vous devez vous exiler. Cela concerne donc l'immigration des musulmans de la Mecque, et cet exil va vous ouvrir de nouvelles voies. Ne croyez pas que ces persécutions subies seront vaines. Dieu vous récompensera amplement pour toutes ces persécutions que vous avez subies. Voilà donc la récompense à ceux qui sont patients. Comme Dieu l'a déclaré, Dieu a fait de ceux qui étaient patients les dirigeants. Dieu leur a accordé souveraineté. Ce fut la taqwa et le respect des commandements de Dieu qui ont accordé à ces faibles cette souveraineté. Aujourd'hui, c'est là le malheur des musulmans, c'est-à-dire en dépit de leur pouvoir, ils ont été asservis par d'autres. Allah est celui qui tient ses promesses. Et Allah a montré tout cela au saint prophète Mohammed Mustafa, et il leur a fait savoir que les fruits de la taqwa et la patience ne sont pas limités à une période spécifique. Les premiers musulmans ont consommé ce fruit, et après une période d'obscurantisme, les croyants vont encore une fois consommer ce fruit de nouveau. La victoire de l'islam va se faire par le bien-aimé du saint prophète Mohammed Bissosalui et par l'entremise de sa communauté. Et la Jama'a du Messie premier, l'Islam, va aussi passer par les mêmes situations. Au tout début, les musulmans ont été persécutés. Et grâce à cette persécution, les portes du progrès pour l'Islam se sont ouvertes. La Jama'a du Messie premier, l'Islam, sera persécutée. Ensuite, ses portes vont s'ouvrir. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed a donné ce conseil aux musulmans qu'ils ne doivent pas être de ceux qui vont persécuter le Messie du saint prophète Mohammed et qu'ils doivent par contre lui transmettre ses salutations et qu'ils doivent aussi le soutenir. Aujourd'hui, tout Ahmadi est témoin qu'au Pakistan, on est en train de persécuter les Ahmadis. On est en train de placer différentes restrictions. Et aujourd'hui, Dieu a implanté la Jamaat Ahmadiyya dans 195 pays. Les progrès individuels sont liés au progrès de la communauté. Voilà la chose essentielle que l'on doit avoir en tête. Le progrès de la Jamaat ne s'arrête pas en raison des pertes individuelles. Au tout début, les martyrs musulmans ont ouvert les portes de grands empires et aujourd'hui aussi, les sacrifices des Ahmadis vont ouvrir les portes pour le progrès de la communauté. Le message du Messie, du Saint-Prophète, paix soit sur lui, est en train d'atteindre tous les coins et les recoins du monde. Dans tous ces pays, il y a ceux qui sont en train d'envoyer des salutations sur le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et aujourd'hui, le message du Messie est en train d'atteindre tous les pays grâce à la MTA. Et lorsqu'on récite ces salutations sur la MTA, même s'il y a ceux qui sont en train de réciter ces salutations ou pas, en tout cas, les ondes de la MTA sont en train de transmettre ces salutations dans tous les pays du monde. Et aujourd'hui, on est en train de suivre la MTA dans 195 pays du monde. Et il y a aucune garantie concernant les autres chaînes de télé qu'on est en train de la regarder en même temps dans 195 pays du monde. Et à part les Ahmadis, les autres aussi sont en train de suivre cette chaîne. Il y a ceux qui sont en train de regarder cette chaîne pour émettre des critiques. Il y a d'autres qui sont en train de regarder cette chaîne afin d'augmenter leurs connaissances. Je voulais donc dire que c'est là un des signes des communautés de Dieu, à savoir lorsqu'ils sont persécutés, lorsqu'on leur rend la vie difficile, Allah élargit leurs provisions, Allah les accorde des provisions de différentes façons. C'est ainsi que Dieu a traité la Jamaat du Messie promis. Allah a traité ainsi sa Jamaat car la victoire finale de l'islam va se faire par l'entremise du Messie premier, l'islam. Inch'Allah, cela va se faire qu'à la fasse que nous puissions individuellement comprendre cette responsabilité importante, que nous puissions marcher sur les voies de la taqwa et que nous puissions atteindre le but pour lequel le Messie premier l'islam a été envoyé et que nous puissions être récompensés sans limite.